Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 2. Certes, M. de Galandeau put facilement s'enquérir du palais où habitait le cardinal Lamparelli. Tout le monde lui en eut indiqué l'édifice monumental, non loin du Monte Cavallo, et il avait dû, plus d'une fois en ses promenades, passer devant la haute porte où deux Hercules engainés supportent de chaque côté le fardeau d'un grand balcon de ferronnerie qui montre à son centre le blason aux trois lampes d'or allumées de gueules qui sont les armoiries du dignitaire. Chacun eût donc pu, aussi bien que de la demeure cardinaliste, le renseigner également de l'accès qu'on pouvait trouver auprès du prélat. Rome, en effet, est fière de ses cardinaux. Leurs personnes, leurs caractères et leurs mœurs sont l'occupation favorite, au public comme au privé, autant de la société que du populaire, qui aime à savoir ce qu'ils font et, à tout le moins, à répéter ce qu'on en dit. Une pareille ville, toute de prêtres, de moines, de sacristains, où presque tout tient de près ou de loin à l'église, des personnages ecclésiastiques et surtout de ceux qui, dans une cité papale, contribuent, par leurs fonctions, à son gouvernement et à celui de tout l'État. M. de Galandeau, donc, ne manquait guère, chaque jour, de rencontrer un de ces grands carrosses qui vont par les rues au trot de leurs gros chevaux de parade et dont l'un des laquais porte l'insigne bien connu du parasol rouge. Il se rangeait prudemment pour le laisser passer. Des glaces, hautes ou baissées, montraient assis au fond l'un ou l'autre des porporati allant à quelque affaire ou se rendant à quelque cérémonie. Il y en avait de tous les visages, de très gros avec des mines de bons vivants, de très maigres, avec des airs de mauvais mort, face béate ou sournoise, bouffie ou décharnée. Parfois, quelques forts nez orgueilleux busquaient un profil âpre. Des narines minces ou sèches disaient la ruse ou la prudence. Les étrangers prélassaient leur vanité française, redressaient leur morgue espagnole, affaissaient leur flegme tudesque. La plupart, pourtant, italiens et même romains. Ceux-là conservaient sous la pourpre l'enseigne de leur origine rustre, citadine ou seigneuriale. Il y en avait de nés dans une échoppe et de venus au monde dans un palais. Certains avaient porté la robe des ordres prêcheurs, mendiants ou politiques. Certains étaient entrés au cardinalat à portes ouvertes, certains à portes basses. Les négociations des cours ou les intrigues des antichambres avaient valu le chapeau à plusieurs. La bassesse des origines et l'illustration des naissances se coudoyaient dans la vertu ou dans l'ambition. Mais un même air de hauteur et d'hypocrisie assortissait dans une sorte de parenté secrète ces visages disparates. M. de Galandeau, en bon romain, avait fini par les connaître de vue. Leur nom même lui était parvenu aux oreilles par la bouche du peuple. Il l'entendait murmurer à mi-voix, au passage, par les rues qu'ils remplissaient de l'écart des larges roues de leurs carrosses surdorées. Quelques-uns de ces noms étaient prononcés d'un ton de respect, d'autres d'un air narquois, certains remplacés par un sobriquet familier, amical ou méprisant, selon l'état que le populaire faisait du personnage. Car la discrétion ecclésiastique n'empêchait pas qu'il courût par la ville maintes histoires où le peuple distinguait d'instinct et assez exactement le mérite ou l'indignité de ceux qui pouvaient, après tout, être un jour appelés à le gouverner. Car tout cardinal porte en lui la graine d'un pape, et c'est la semence qui répond de la fleur et du fruit. Sans partager à cet égard l'intérêt public, M. de Galandeau avait appris peu à peu à reconnaître ses passants augustes et papables. Il reconnaissait le cardinal Benariva à son attelage de chevaux noirs, le cardinal Barbivoglio à sa double paire d'alezans. Des juments pies du cardinal Botta, l'une boitait que le pingre vieillard ne songeait point à remplacer, de même que le cardinal de Ponte Santo se contentait, pour traîner son équipage vermoulu, de quatre vieux bais qui n'avaient plus que la peau et les os. Quant au cardinal Lamparelli, il n'y avait plus guère chance de le rencontrer, car il ne sortait pas une fois l'an de son palais. On le disait fort baissé et on prétendait plaisamment que, si les lampes de son blason restaient allumées, les siennes ne tarderaient point à s'éteindre ou à se transformer en beaux cierges de catafalque. Quant à monsieur de Galando, il avait parfaitement bien oublié au fond de sa malle la belle lettre cérémonieuse que l'abbé Hubertet lui avait donnée au départ pour la remettre en main propre au cardinal et, depuis un an qu'il était à Rome sans en faire usage, la cire des cachets avait dû se fondre et l'empreinte s'en effacer. Ainsi, monsieur de Galando menait la vie la mieux réglée et la plus unie, dont la promenade continuait à faire le passe-temps le plus ordinaire. Aucun événement ne la vint troubler, si ce n'est le carnaval, où il lui arriva une aventure dont il garda un assez fâcheux souvenir. Ignorant les usages romains, il était sorti ce jour-là, comme de coutume, sans rien observer autour de lui de trop particulier, quand un hasard malencontreux le fit déboucher dans le corso juste au moment où la folie des masques était à son comble. La rue en regorgeait dans toute sa longueur. Les carrosses l'occupaient en deux files et s'y tenaient roue à roue. Par les portières baissées, des hommes et des femmes déguisés échangeaient des galanteries et des lazzis. Les cochers, juchés sur les sièges, brandissaient des fouets enrubannés. Aux fenêtres, des groupes se penchaient, déroulant de longues banderoles ou lançant des pluies de petits papiers multicolores qui tombaient en tourbillonnant comme un vol inépuisable de papillons légers et incertains. Parfois, un grand char passait, chargé de figures comiques. On y voyait des grotesques et des bergamesques. Les visages de farine y riaient aux faces de vermillon. Quelques-uns s'étaient affublés de figures d'animaux. Les becs et les groins se querellaient. Des crêques de coqs démesurés y oscillaient vis-à-vis d'oreilles d'ânes gigantesques. De grands éclats de rire saluaient les inventions les plus baroques. Les grimaces répondaient aux facéties. En un instant, monsieur de Galando, effaré de cris et ébloui du soleil qui faisait de toute la rue une sorte de remous coloré, fut criblé de confettis, harcelé de banderoles, bousculé, houspillé, enfariné. Il était le point de mire de tous les gestes, le sujet de tous les rires. Son arrivée à l'improviste satisfaisait, sans qu'on sût pourquoi, cette attente d'imprévu qui est le sentiment secret de toute foule. Sa mine ahurie augmentait la gaieté. Il allait et venait sans savoir où ni comment se tirer de là, perdu dans la bagarre qu'il causait autour de lui. La cohue amusée trépignait. Les galopins commençaient à lui pincer les jambes quand, tout à coup, il se sentit jeter sur les épaules un ample domino et poser sur le visage un masque de carton. Quelques passants sans doute avaient voulu achever ainsi l'ahurissement de ce tranquille promeneur qui semblait tomber là de la lune. Mais ce déguisement improvisé eut l'heureux effet de le confondre avec la mascarade environnante, et M. de Galando en profita pour, parvenu à l'angle d'une rue, s'enfuir à toutes jambes. Ce fut dans cet accoutrement qu'il rentra chez lui. La vieille Barbara, de surprise, laissa, à sa vue, tomber une écuelle qu'elle tenait à la main, devant la tête de bouc en carton peint qui se présenta à ses yeux sur les épaules de son digne maître. Elle ne revint à elle que lorsqu'elle vit reparaître, sous le masque enlevé, la figure barbouillée, suante et défaite de M. de Galando, car il eut grand-peine à reprendre ses esprits et resta presque malade de la peur qu'il avait eue, si bien qu'il fut plus d'une semaine sans oser sortir de chez lui. Durant cette retraite, il passa une grande partie de son temps auprès de Barbara. Presque chaque jour, déjà auparavant, il ne manquait guère de descendre aux cuisines où la bonne femme allait et venait, son chapelet au doigt, à travers la vaste pièce à demi obscure. On y respirait une odeur de légumes fanés et d'huile rance, à laquelle se mêlait un parfum de cendre froide et de bois brûlé. M. de Galando aimait à s'asseoir auprès de l'âtre. Une flamme mince et comme paresseuse chauffait le fond d'un vieux chaudron de fonte. La suie le rendait velouté et doux à l'œil. L'eau bouillait avec son petit bruit vif et clair. Au plafond, se balançaient des couronnes d'oignons et des guirlandes d'eau. Parfois, une poule entrait et venait à pas prudents jusqu'au foyer. La clarté du feu se reflétait dans le point lumineux de son petit œil rond. Elle piquait une graine du bec et s'enfuyait à toutes pattes. Ses ongles griffaient le pavage d'un grincement sec. Barbara était le mouvement même. Elle ne cessait guère de se démener sans pour cela faire grand ouvrage. La première activité qu'elle avait mise à nettoyer la villa lors de l'installation de M. de Galando ne se renouvela plus. elle laissait la poussière reprendre une place qu'elle ne lui disputait pas. Tout son travail consistait presque en un coup de balai sommaire qu'elle donnait à la chambre de son maître, dont elle retapait le lit prestement et qui ne lui adressait d'ailleurs aucun reproche de sa paresse. Même quand il la rencontrait dans la cour revenant du marché voisin, il lui arrivait souvent de lui prendre des mains son panier et de le porter lui-même jusqu'à la cuisine, où il s'asseyait pour en voir déballer le contenu. Elle ne lui faisait grâce de rien. Il fallait qu'il remarquât la belle fraîcheur des légumes et sentît à l'écorce la bonne odeur des melons qu'elle rapportait. Il les aimait jaunes et raboteux, à grosses côtes, de chair juteuse et ruisselante. Il prenait également plaisir à voir la vieille femme soupeser les oranges et les citrons et presser du doigt la peau mûre et flasque des grosses figues. Comme autrefois à Pontaubel, dans les vastes cuisines voûtées du château, il se plaisait à la société taciturne du jardinier Hilaire. Ici, il aimait l'humble compagnie de cette servante âgée, bavarde et laide. Il commençait à fort bien entendre son langage. Il lui avait suffi pour cela de laisser corrompre son latin, qu'il avait d'enfance pur, nombreux et excellent, de par les soins de l'abbé Hubertet, et dont le complimenta jadis M. de la Grangère à sa descente de carrosse dans la cour de Pontaubel, le jour qu'il y amena Julie de Mauceuil. C'est de cette langue hybride qu'il usait également dans ses visites au tailleur Cozzoli, quand il allait s'asseoir dans sa boutique de la rue del Babuino, où il venait parfois se faire recoudre, car il était très soigneux de son vêtement. Si simple qu'il le portât, il le voulait parfaitement propre et de l'ordre le plus exact. Ce fut à propos de ce funeste carnaval de 1768 que M. de Galando fit la connaissance de Giuseppe Cozzoli. Lorsqu'au retour de son échauffourée, la vieille Barbara lui eut tiré de la figure le masque qu'il rapportait tout courant à la maison et qu'elle lui eut lavé à grande eau le visage où la sueur délayait la farine qu'il encroûtait, M. de Galando, remis de son émotion, s'aperçut que principalement les basques de son habit avaient souffert dans la bagarre. L'un des pans ne tenait plus. Plusieurs boutons arrachés laissaient pendre à leur place un fil lamentable. L'étoffe, fripée et déchirée par endroits, montrait grand besoin d'une réparation. Barbara indiqua alors à son maître, déconfit, l'adresse de Giuseppe Cozzoli. C'était justement une espèce de petit-neveu de la vieille femme. Il savait à merveille, disait-elle, tailler et ravauder. Mais M. de Galando, avant de se résoudre, comme il le désirait, à aller chercher les secours de l'aiguille et du ciseau pour réparer le dommage de sa personne, attendit prudemment que le carnaval eût pris fin. Ce ne fut qu'alors qu'il se décida à sortir pour faire effacer les traces de la mésaventure dont il lui restait un assez amer souvenir et dont le premier feu lui avait donné l'idée de fuir sans retour une ville si dangereuse aux passants. Tout de bon, il ne songea à rien moins sur le moment qu'à quitter Rome. Il y pensait en rôdant autour de la chaise de poste, toujours à la même place, en plein air, dans la cour de la villa, mais si délabré déjà et si souillé de duvet de poule et de fiente de pigeon, qu'il renonça peu à peu au projet d'y faire atteler de chevaux et de reprendre au galop la route de France. Son ressentiment s'apaisa, mais il en garda une singulière rancune contre le corso. Il s'épargnait avec soin d'y passer et l'évitait d'un détour chaque fois qu'il se rendait chez Cozzoli. Cozzoli occupait au fond d'une cour deux pièces obscures à plafond bas. Dans l'une des deux, la plus claire, il cousait continuellement assis sur une table, les jambes croisées sous lui, à la turque. Il parlait intarissablement en piquant l'aiguille et en tirant le fil. Ses auditeurs les plus ordinaires étaient quatre ou cinq grands mannequins sans tête, fort bien rembourrés et vêtus de diverses pièces d'habillement. Il servait au tailleur à ajuster les parties de son travail et à vérifier la justesse de ses coupes. Il les considérait absolument comme des êtres humains et il tenait lieu à ses discours du public qui lui manquait. Il les interpellait, leur répondait et les écoutait. M. de Galando ne mettait pas moins à l'entendre d'attention que cette muette et permanente assemblée. Une fois assis sur sa chaise, la canne entre les genoux, comme il n'y manquait pas à chacune de ses visites, qui devinrent presque quotidiennes, il était tout oreille et Cozzoli pouvait les lui rabattre de toutes les fadaises qu'il voulait. On était presque toujours sûr de trouver là le bavard tailleur qui ne s'absentait guère que pour se fournir chez les drapiers et les passementiers des objets nécessaires à son travail ou pour aller prendre mesure à quelques clients d'importance, car il était habile dans son métier et la pratique ne lui manquait pas. Il ne fallait rien moins que ces occasions pour lui décroiser les jambes de sur sa table cirée par l'usage. Cozzoli, debout, se trouvait fort embarrassé et presque penaud de se montrer avec de courtes jambes, un buste long et une grosse tête ébouriffée aux yeux vifs. Il ne se sentait vraiment lui-même que sur sa sellette, le dé et l'aiguille au doigt. Une fois installé, il parlait. Aux endroits intéressants, il s'arrêtait, l'aiguille levée. L'attention et le crédit que lui prêtait M. de Galando le rendaient assez fier. Cozzoli savait un nombre de choses incroyables, sans qu'on sût au juste comment et d'où il les avait apprises. C'était à croire que le petit homme eût assisté par quelque procédé de magie au conseil des princes, au secret des grands et aux pensées de chacun, tant il mettait à ses histoires de particularités probantes et de certitudes communicatives. Il possédait la chronique de la rue et du palais, les affaires de l'État et de la religion, les ressorts des ambitions, les artifices des intrigues, le détail des amours et des passions, la raison des événements, les causes des catastrophes publiques aussi bien que privées. Cozzoli ne tarissait pas. M. de Galando écoutait cette fontaine de paroles comme il écoutait, en ses promenades lointaines, le bruit incertain des fontaines d'eau. Il y prenait une idée confuse et mouvante de tout ce qui se passe continuellement chez les hommes, des aventures innombrables, grandes ou petites, qui diversifient les destinées, les animent de leur imprévu et y font succéder les alternatives incessantes qui composent la vie. Pendant que Cozzoli parlait, les mannequins paraissaient l'approuver silencieusement, comme s'ils eussent été les héros de ce que racontait l'Avorton, et M. de Galando, les yeux grands ouverts, le menton au bec de sa canne, écoutait sans se lasser tant de choses singulières, curieuses ou surprenantes, pour lesquelles vraiment il eût été si peu fait. M. de Galando avait été très spécialement et très évidemment mis au monde pour qu'il ne lui arrivât rien. Il avait eu en lui, de tout temps, juste de quoi suffire aux circonstances les plus ordinaires, les plus communes et les plus succinctes de la vie. Il était fait pour en suivre la pente doucement inclinée, d'un bout à l'autre, sans accroc ni faux pas. Mais il se trouvait peu propre à en éviter les pièges et à en franchir les crevasses. La Providence, si l'on peut appeler de ce nom la puissance malicieuse qui se plaît à déjouer les concerts humains, en disposa différemment. Il suffit du sourire d'une fillette et du souffle tiède de sa bouche d'enfant pour déchaîner la bourrasque orageuse d'où le pauvre Nicolas de Galando sortit à jamais étourdi et stupéfait. C'est à elle qu'il devait, au lieu de vieillir paisiblement sous les beaux ombrages de Pontobel, de se trouver à Rome, solitaire, erratique et étranger, réduit au service d'une vieille servante italienne, borgne, noiraude et bougonne, et à la conversation d'un petit tire-point facétieux et bavard. Car M. de Galando venait plusieurs fois la semaine à la boutique de Cozzoli. Cozzoli cousait. Il enfilait son aiguille, l'œil cligné, levant son doigt où luisait le dé de cuivre. Autour de lui voltigeait sa pie. Elle sautillait sur le carreau, claquant son bec où pendaient encore des grumeaux de fromage blanc, à moins que, battant des ailes, elle ne se perchât sur l'un ou l'autre des mannequins sans tête qui formaient, avec M. de Galando, l'auditoire complaisant du petit tailleur de la rue del Babuino.